Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Ravive, dans l'émission Storytelling, présentée par Byron et Sarabella. Salut Byron.
Salut Sarabella, salut à tous.
Storytelling, c'est l'émission qui raconte des histoires authentiques.
Des anecdotes véridiques.
Du vécu, des tranches de vie.
De l'insoupçonné à l'insoupçonnable.
De la story et du feeling,
c'est Storytelling.
Aujourd'hui, je suis contente, Byron. Nous allons parler d'une femme, d'une rappeuse qui est la plus talentueuse de France. C'est Diams. Quel morceau as-tu choisi de nous faire écouter ?
Eh bien, nous allons écouter Diams, Ma France à moi, sur Radio Ravive.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non,
c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise. Elle vit à l'heure américaine, KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c'est des petites femmes qui se débrouille entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange, ouais c'est un arc-en-ciel. Elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Non,
c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM. Celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes. Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante. Celle qui regarde du l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur. Qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés. Celle qui pue le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte. Cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail. Celle qui se gratte les couilles à table en regardant l'Orange Jeanne. C'est pas ma France à moi cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
Tout le monde connaît la rappeuse Diams. Peux-tu nous parler de cette chanson qu'on vient d'écouter ?
Alors la chanson qu'on vient d'écouter, elle s'appelle Ma France à moi. Et je l'ai choisie parce qu'elle est assez représentative finalement de la carrière de Diams. qui s'appelait aussi Mélanie Georgiade. Son nom est connu, donc c'est pour ça que j'en parle. On savait qu'elle s'appelait Mélanie, puisqu'il y a des morceaux dans lesquels on ne l'appelle même pas Diams, on l'appelle Mélanie. Donc je trouve que ce morceau, il est assez représentatif. Et après, assez représentatif aussi de sa carrière, de ce qu'a été la carrière de Diams. Diams, c'est effectivement des grands succès commerciaux, mais pas que. C'est aussi beaucoup de titres engagés. Et Ma France à moi est un titre particulièrement engagé. Je trouve que musicalement, il y a quelque chose qui se passe dans le morceau. Je trouve que ce qu'elle dit, évidemment, est très fort, puisqu'elle décrit finalement sa France à elle, telle qu'elle la voit, et qui est évidemment en opposition avec une autre France. Et je trouve que dans ce morceau-là, il y a aussi une particularité, c'est qu'elle se rapproche beaucoup pour moi du rappeur Eminem, qui est certainement une des plus grandes influences de la rappeuse Diams dans la manière de rapper et aussi dans la manière de composer ses chansons, même si elle n'était pas compositrice du tout, elle récupérait des chansons par des beatmakers. Mais on va dire que je trouve qu'elle a réussi à créer en fait cette passerelle entre Eminem et sa manière à elle d'aborder sur un morceau purement français.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de parler du morceau « Confession nocturne » avec Vita, qui cartonne aujourd'hui sur TikTok.
C'est la particularité de certaines chansons de cette époque qui reviennent aujourd'hui grâce à TikTok. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de la jeune génération qui a découvert, bon, qui connaissait Vita, parce que Vita est toujours aujourd'hui dans le paysage musical français, mais qui ont connu peut-être Diams à travers cette chanson, qui est une chanson qui, à la fois, c'est un clip musical. Ça veut dire quand on l'écoute, on se fabrique des images dans la tête. Évidemment, le clip a cartonné aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'époque, c'est une chanson qui a fait grand bruit aussi. Et là, c'est là que c'est intéressant, parce que tu as dit au début de l'émission que c'était une femme.
Oui.
Et qu'effectivement, il y a une fierté de ça. C'était la première fois aussi qu'on entendait en rap un sujet traité par des femmes, j'allais presque dire pour des femmes.
C'est vrai.
Voilà, donc c'était vraiment nouveau d'avoir ce type d'écoute. Et je trouve que vraiment, le morceau n'a pas pris une ride. Et ça, c'est fort.
Je suis d'accord avec toi. Et vraiment, très très beau morceau et très fier pour nous les femmes. Dis-nous que tu l'as rencontrée, Diams. Et est-ce que tu as travaillé avec elle ?
Je l'ai rencontrée deux fois. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors d'un concert, c'était à la salle La Franchie, qui est dans le 11e arrondissement de Marseille, qui est une salle dédiée au rap. C'était un concert plutôt underground, comme on dit, avec... je vais citer des rappeurs qui étaient là ce soir-là. C'était le groupe Ménage à Trois, et un rappeur qui s'appelle Monsieur R. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ces personnes-là, mais c'était pas des personnes qui étaient de Paris, et qui avaient une sorte de grand collectif, donc le Ménage à Trois. Et dans le collectif Ménage à Trois, y avait ce jour-là Diams. Vous savez, à l'époque, les concerts de rap... et notamment les concerts de rap français, bon, ça existait aux États-Unis, mais ça marchait aussi très fort en France, ils finissaient tous par un freestyle, ce qu'on appelle un freestyle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, j'étais dans le public en tant que rappeur, et j'avais la possibilité à la fin du concert de monter sur scène, si je connaissais quelqu'un de la sécurité, pour pouvoir monter sur scène et, en fait, et faire un freestyle. Ça veut dire sur la même musique, chacun fait un bout de texte.
Comme le film 8 Mile.
C'est pas pareil, le film 8 Mile, c'est du clash.
Ah, okay.
Donc c'est pas vraiment du freestyle à proprement parler. On est plus sur de l'affrontement. Là, c'est carrément, c'est une sorte de morceau collectif en live qui n'est pas préparé. Et surtout, où le public et les artistes moins connus se mélangent avec des rappeurs connus.
Okay.
Et en fait, il s'est trouvé qu'il y a eu un grand freestyle à la fin, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rappeurs de Paris qui étaient là, beaucoup de rappeurs de Marseille qui ont voulu monter sur scène à ce moment-là. Moi, j'avais fait la première partie, donc évidemment, j'étais déjà sur scène. Et là, d'un coup, on a vu arriver cette jeune fille avec les cheveux longs, avec des lunettes, et qui s'est mis à rapper, en fait, comme ça, au milieu des garçons, qui avaient un style à elle, avec sa voix de fille. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a aussi apprécié chez Diams, c'est que c'était une vraie fille, entre guillemets. C'était pas une fille qui voulait jouer aux garçons. Pas
Exactement.
Du tout. Elle avait vraiment sa féminité, elle avait vraiment son écriture féminine, et ça, c'est très fort.
C'est ce qui nous plaisait.
Exactement. C'est ce qui a fait que, voilà, la première fois, effectivement, on a tous été plutôt interpellés par son rap. Ça, c'est ma première rencontre avec elle, très succincte, pour le coup, parce que, bon, voilà, on s'est rencontrés sur scène et vraiment, je ne savais pas vraiment qui elle était. Par contre, quelques temps plus tard, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Et là, je vais vous raconter l'histoire. Il se trouve que j'ai travaillé avec une personne qui s'appelait Karima. Karima était la voix des Bad Boys de Marseille à l'époque de la Funky Family. Le morceau extrêmement connu des Bad Boys de Marseille avec Funky Family et Akhenaton, IAM au complet. Et en fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec Karima. Et Karima était sur un projet, une compilation, comme on disait à l'époque, qui avait pour vocation de faire des chansons pour les femmes battues et contre l'enfance maltraitée. L'idée, c'était aussi de reverser tous les droits, justement, à des associations voilà, qui luttaient contre ces causes-là. Donc, elle est venue chez moi. On a travaillé sur la musique. Là, j'étais que beatmaker, sur le coup. J'étais pas du tout ni rappeur, ni j'intervenais pas dans cette chanson. Et elle m'a dit que c'était justement pour faire un morceau avec Mélanie Diams à Paris. Je peux dire une chose, c'est que ben, j'étais, moi, très jeune beatmaker. Ça veut dire que je rappais depuis longtemps, mais ça faisait pas longtemps que je faisais de la musique et que je produisais de la musique. Et à ce moment-là, je me suis mis à produire de la musique avec Karima. Et on a envoyé ça à Paris. Il y a eu une sorte de sélection à l'aveugle, où j'étais opposé quand même à Imhotep Dayam, à Kenaton Dayam aussi. Je crois qu'il y avait Jel de la Funky Family. Bon voilà, il y avait pas mal quand même de gens qui produisaient beaucoup de musique. Et à l'aveugle, ma musique a été désignée. Et donc je suis monté à Paris. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là, puisque c'était un studio d'enregistrement qui était dans le quartier de Montreuil. Et l'idée du studio, c'était, comme il y avait évidemment des agendas, qu'il fallait coordonner les agendas, on avait dit qu'on faisait un studio de nuit, ça existait beaucoup à l'époque. On faisait ça de 20h du soir jusqu'à 8h du matin. Donc c'était ça l'idée. Et là, donc, j'ai re-rencontré Diams, et on a été... je pense que toutes les personnes du studio, on n'était pas très nombreux à ce moment-là, parce qu'on avait demandé justement à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Vous savez, on a souvent l'image des rappeurs en studio avec beaucoup, beaucoup de monde. Là, l'idée, c'était d'être pas très nombreux.
Oui, mais attends, ça veut dire que tu avais déjà été sélectionné.
Exactement, j'ai été sélectionné parce que j'étais à Paris. Exactement. Donc, et je me suis retrouvé dans la cabine son. Elle a fait ses essais. Quand elle a fait ses essais de voix, elle a fait ce qu'on a fait, elle a fait un rap, quoi, un texte à elle. Et là, on était tous impressionnés par son énergie. Vraiment tous impressionnés. Le morceau était extraordinaire. J'imagine. L'enregistrement était extraordinaire. Après, on a eu la chance de pouvoir discuter. Elle était très contente que ce soit moi qui était sélectionné pour la chanson. Donc, c'était vraiment super de pouvoir échanger avec elle. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé chez elle. Et je pense qu'on va en reparler plus tard dans l'émission. C'était justement son énergie, l'énergie qu'elle avait et cet amour qu'elle avait de la musique et du rap en particulier. Et cette envie aussi de réussir. Parce que quand je l'ai rencontrée, elle n'avait pas encore fait Brut de Femme. Elle avait fait un premier album qui s'appelait Premier Mandat, qui n'a pas marché. C'est une sorte d'échec commercial. Et en fait, c'est ça la force de Mélanie. Et je pense qu'il y a eu des émissions sur ça. Je pense que les gens sont au courant aujourd'hui, le grand public est au courant aujourd'hui, qu'elle a eu cet échec commercial qui l'a vraiment construite en réalité.
Oui, et ensuite, c'est Jamel Debbouze qui l'a mis dans la lumière.
Oui, en fait, Jamel Debbouze l'a appelé et lui a dit « Écoute, je pense que tu as du talent. Et malgré ton premier échec commercial de ton premier album, je pense qu'il ne faut pas que tu restes là-dessus. Je pense que tu as vraiment quelque chose à prouver, tu as quelque chose à défendre. Et ne t'inquiète pas, je suis derrière toi. Et je pense que même financièrement, il a été là, je pense, pour faire le lien. »
Surtout, il a cru en elle.
Oui, il a cru en elle. Et justement, l'idée, c'était vraiment à ce moment-là de pouvoir la pousser, de pouvoir lui faire une sorte de matelas de sécurité et surtout que les maisons de disques aient envie d'investir sur elle. Et elle a sorti donc son album Brut de Femme qui a été le succès qu'on connaît, évidemment, avec la chanson DJ. Alors, pour finir l'anecdote, je l'ai recroisée en fait après le studio. Je l'ai recroisé quelques mois plus tard à une fête qui s'appelle la fête de la goutte d'or à Paris, qui est à Barbès, voilà, au cœur de Barbès. Et quand je l'ai revue, elle m'a dit « Tu sais, je prépare un nouvel album et j'aime tellement tes musiques, j'aimerais que tu puisses me filer quelques musiques encore pour mon album. » Et vous voyez comme on est un peu des fois jeune et bête. C'est que j'ai complètement oublié en fait de lui envoyer quoi que ce soit. Malheureusement, je n'ai pas participé à cet album Brut de Femme qui a été le succès que l'on connaît aujourd'hui.
Byron, je comprends sa décision d'arrêter sa carrière, mais qu'est-ce qu'elle manque à la chanson française ? Comment as-tu ressenti sa fin de carrière ?
Ce que je vais dire maintenant n'engage évidemment que moi, mais elle manque effectivement à la chanson française, elle nous manque tous. De toute façon, je crois que c'est Teufa qui a dit ça, qui est un des plus grands producteurs de la musique hip-hop en France et qui était aussi son producteur, qui a dit cette phrase-là, qui a dit « Elle a laissé son trône vide ». Et c'est vrai. Il n'y a malheureusement pas eu de vraie digne héritière. Alors, on peut citer Kazé, qui était une rappeuse qui était déjà là, qui est très rue, très underground. Là, on n'est pas sur du succès, commercial ou de grande écoute. Et on a évidemment aussi la rappeuse Kenny Arcana, que j'ai évidemment très bien connue, puisque je suis à l'origine, humblement, de sa formation. Et on va dire que Mélanie Diams, quand elle est partie, malheureusement, elle a laissé un vide immense. Mais... dernièrement, il y a quelques temps, Elle a publié sur sa chaîne YouTube. Alors, il faut savoir qu'elle est toujours active. Hein. Ça veut dire qu'elle écrit des livres, qu'elle s'est évidemment retirée, qu'elle est devenue mère de famille. Et que, évidemment, ça a changé sa vie. Ce qu'on conçoit et qu'on comprend tout à fait. Et elle a expliqué, et ça, je pense qu'il faut que tous les gens qui aiment Diams et qui souffrent encore une fois de son manque entendent. Elle a expliqué qu'elle a souffert en étant Diams. Elle a énormément souffert en étant Diams. Il faut bien comprendre aussi, et ça ceux qui ont suivi sa carrière peuvent le comprendre, c'est que quand même, elle a fait quand même de l'hôpital psychiatrique, Diams. Entre les albums, elle se sentait vraiment pas bien. Elle a quand même un morceau dans un de ses albums, je crois que c'est dans ma bulle, qui s'appelle TS, où elle raconte sa tentative de suicide. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle était instable sur le plan psychologique. Moi, j'ai compris tout. Je crois que c'est encore en ligne sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez taper d'ailleurs et aller voir. Elle a dit cette phrase qui, pour moi, résume sa fin de carrière. Elle a dit « Vous m'aimez, mais est-ce que vous m'aimez morte en étant Diams ou est-ce que vous préférez me voir vivante en étant Mélanie ?» Je crois que là, elle a tout résumé en réalité. Il faut bien comprendre, encore une fois. Et vraiment, c'est là-dessus que je vais insister. On croise des artistes qui veulent absolument réussir, qui ne sont pas encore dans la lumière, qui sont dans l'ombre, comme on dit. Et on les voit en fait gravir les marches pour essayer d'aller jusqu'au succès. Et souvent, ça arrive. Quand ils sont dans la lumière, quand ils ont tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils désiraient, tout ce pour lequel ils se sont battus pendant des années, eh bien, ils s'aperçoivent à ce moment-là que ça ne remplit pas leur cœur, en fait. Et ça ne comble pas leur vide. Que le vide est toujours là et des fois, il s'accentue encore plus. Vous voyez ? Et donc, c'est en fait ça qu'il faut comprendre. C'est qu'elle n'était pas heureuse. Aujourd'hui, elle l'est. Elle nous laisse un patrimoine musical exceptionnel, extraordinaire. Mais on comprend que c'est mieux pour elle qu'elle soit aujourd'hui à l'écart.
On comprend aussi, bien évidemment. Mais elle nous manque.
Évidemment, elle nous manque à tous. Mais on a toujours ses chansons, donc on peut se repasser ses titres, évidemment, et continuer d'apprécier son talent.
J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission, Byron. Merci beaucoup. Merci à tous et salut Byron.
Salut Sarabella, moi aussi j'ai pris énormément de plaisir à parler de notre amie Diams, Mélanie. Rendez-vous bientôt sur Storytelling. Et on remercie Tony à la réalisation de cette émission.
Merci Tony.
De vous.